7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine. 37% des enfants scolarisés dans le monde reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils ne parlent pas à la maison, selon la Banque mondiale. Alors aujourd'hui, bien, vous allez avoir la parole sur les langues africaines à l'école. Quelle est la place de ces langues dans les écoles de votre pays ? Votre enfant apprend-il à lire, à compter dans la langue parlée à la maison ou dans une autre langue ? Quelles difficultés aussi scolaires en découlent ? Nous attendons vos témoignages, que vous soyez parents, que vous soyez enseignants, et vos questions à nos spécialistes sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. En studio à mes côtés, Christelle Mignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable alphabétisation, langue française et intégration à l'ONG Solidarité Laïque et vous préparez un documentaire sur ce sujet des langues africaines à l'école. Ça va s'appeler « J'apprends si je comprends ».
Absolument. Tourné au Mali, Burkina Faso, Sénégal et République démocratique du Congo.
Et vous nous direz un petit peu ce que démontrent ces images et ces situations sur le terrain. Nous sommes aussi en ligne avec Gabriel Mba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef du département des langues et cultures à l'école normale supérieure de l'université d'Yaoundé 1 au Cameroun et spécialiste de l'éducation multilingue. Également Ibrahima Giroud nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Il nous dira pourquoi en tant que psychologue l'enseignement en français intervient trop dans le système scolaire, trop tôt au Sénégal. Et tout de suite, reportage au Kenya de notre correspondante Charlotte Simonard à Nakuru, au centre du Kenya, à la découverte d'une école qui place l'Afrique au cœur de son enseignement. Nous sommes cette fois clairement dans une revendication culturelle. L'objectif, c'est de préserver, c'est de transmettre la culture africaine. Ça passe notamment par l'enseignement des langues africaines, des langues qui, dans les grandes villes comme Nairobi ou Mombasa, sont de moins en moins parlées au profit de l'anglais. Cette école à Nakuru accueille des élèves de 4 à 13 ans. Son nom, l'École de la Liberté.
Alors nous voici devant cette fameuse école, Children in Freedom School, cette école de la liberté à Nakuru, dans la vallée du Rift. Il fait assez froid en ce moment, c'est l'hiver au Kenya, il a plu beaucoup. On a roulé à peu près 3 heures de route au nord-ouest de Nairobi. Jambo! Bonjour.
Hi. Bonjour. Welcome to the Children in Freedom School. Yeah, welcome.
I am Dr. Odheri Kanayo.
Je suis Uteri Kanayo. Je suis la directrice de l'École de la Liberté. Bienvenue.
Alors voilà, je suis arrivée dans la cour. C'est vrai que c'est une école, hein, il n'y a pas de doute. Il y a deux bâtiments principaux blancs et une petite cour, jardin. Alors Uteri, combien d'enfants sont scolarisés dans votre école aujourd'hui ?
So we have 300 children.
Nous avons 300 enfants, à peu près un cinquième d'entre eux sont en internat. Et l'internat commence dès l'âge de 12 ans.
Il est un peu plus de 9h du matin et j'accompagne les élèves dans leur classe, car le cours de Kikuyu va commencer. Donc c'est la langue d'une des tribus les plus importantes, les plus grandes du Kenya, que l'on retrouve principalement dans le centre du pays, comme ici à Nakuru, où on se trouve.
Je suis Timothy Mwangi, professeur de la langue Kikuyu. L'idée du cours de ce matin, c'est d'apprendre aux élèves le dialecte de leur tribu, leur langue maternelle qui est le Kikuyu.
Donc ici, tous ces enfants sont des Kikuyu ?
Oui, dans cette classe, tous les enfants sont Kikuyu.
Certains d'eux, avant de venir ici, ne parlaient pas du tout Kikuyu.
Oui, tout à fait. Nous devons d'abord leur apprendre la prononciation, car la langue Kikuyu contient des sons particuliers. C'est la première chose qu'ils doivent savoir. Ils ne peuvent pas avoir l'accent anglais lorsqu'ils parlent Kikuyu. Une fois qu'ils maîtrisent la prononciation, on commence à introduire des mots et ensuite à construire des phrases. Et pour finir, ils apprennent à écrire en Kikuyu.
Yeah. Ici, je suis avec Jewel, qui a son manuel, son cahier devant elle. Elle a bientôt 13 ans. Jewel, explique-moi un petit peu qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier.
So in my book, I have some.
Alors ici, j'ai écrit les jours de la semaine et ici les mois.
Donc ici, tu apprends le Kikuyu. Est-ce que tu apprends une autre langue traditionnelle ici?
So usually learn our teacher's language.
Oui, j'apprends aussi la langue maternelle de mon professeur, qui est le Kimeru.
Et qu'est-ce que tu ressens depuis que tu parles des langues traditionnelles de ton pays?
It feels great.
Ça me fait du bien. Je me sens plus en confiance quand je parle ces langues. Maintenant, je peux enfin parler la langue de ma mère, de mon grand-père et d'autres membres de ma famille.
Avant de venir ici à l'école de la liberté de Nakuru, est-ce que tu étais dans une école kényane traditionnelle qui est calquée comme beaucoup sur le modèle anglais?
Yeah, I was in another school.
Oui, quand j'étais dans mon ancienne école, ce n'était pas terrible.
It was teaching us about our...
On n'apprenait rien de notre africanité ou de notre tribu. Et puis, je devais porter cet uniforme qui vient d'Europe. Une jupe, un blazer, une chemise blanche et une cravate.
Est-ce que tu penses que dans le futur, ce que tu as appris ici, d'être fière de ton africanité, cela va t'aider dans ta vie professionnelle et même personnelle plus tard?
Of course. Me, I'm knowing my...
Bien sûr. Maintenant que j'ai appris ce qu'était le Kikuyu, je peux le transmettre aux autres générations qui le transmettront à leur tour. Ils connaîtront l'histoire des Kikuyu. Être une jeune femme comme moi, qui aime son continent, représente une immense opportunité. Notre génération peut changer l'Afrique.
Alors, maintenant, je suis avec Mbougué, qui a 11 ans. Mbougué, c'est son nom traditionnel. Et normalement, les Kenyans ont toujours un nom anglais en plus à leur naissance, à leur baptême. Ici, on peut les appeler par leur nom traditionnel. Qu'est-ce que ça signifie, ton prénom Mbougué?
Mbougué signifie intelligent et puissant.
Et donc, c'est très important pour toi qu'on t'appelle par ton nom africain?
Yes. Oui, c'est important. Mon prénom anglais est Joseph. C'est un prénom européen. Mais mon prénom africain, lui, il est vraiment unique.
Est-ce qu'avant, tu connaissais la langue Kikuyu avant de venir ici?
Non, je n'ai jamais appris à parler le Kikuyu, car là où j'ai vécu, nous ne parlions pas notre langue traditionnelle. Je suis né à Mombasa, et là-bas, on parle le Kiswahili.
Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose dans la perception que tu as de toi-même et même dans ta vie de tous les jours, de pouvoir enfin parler Kikuyu, la langue de ta tribu, et une autre également?
Oui, ça a changé ma vie, car en société, c'est très important de connaître son identité. Si tu ne la connais pas, quelqu'un d'autre viendra ouvrir des portes à ta place. Et ça ne sera pas forcément les portes que tu aurais voulu ouvrir.
Voilà, là c'est l'heure de la collation. Donc tous les élèves font la file. Et là je m'approche de la cuisine de l'école où j'ai l'impression qu'on est en train de préparer des sortes de petites crêpes. Qu'est-ce que vous cuisinez?
Je cuisine des chapatis. J'étale la pâte en rond avant de la frire.
Est-ce que c'est un plat traditionnel?
Oui, c'est une spécialité kényane. Les enfants adorent, car c'est sucré et délicieux.
Uthery Kanayo, vous avez fondé cette école en 2018. Comment vous est venue l'idée de créer une école autour de l'africanité?
Ce projet est issu d'un programme scolaire que nous avions mis en place pour des enfants défavorisés. Nous nous sommes rendus compte que nous avions affaire à des enfants qui allaient bien à l'école, mais qui n'étaient pas fiers d'être africains, qui considéraient qu'ils n'avaient pas de valeur dans ce monde dans lequel ils vivaient. Et nous nous sommes dit qu'en plus de s'instruire à l'école, il leur fallait apprendre à croire en eux en tant qu'Africains.
Si vous ne savez pas qui vous êtes,
si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez ni votre langue, ni votre culture ou votre mode de vie, vous finirez par suivre la culture de quelqu'un d'autre. Sa langue, ses valeurs et son système. Ça veut dire quoi? Que vous devenez un suiveur, un esclave.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'africanité, être fier d'être africain, puisque le continent est vaste et très différent?
Oui, les gens ont chacun leur interprétation de l'africanité. Pour moi, c'est d'abord l'amour de ses propres cellules africaines,
africaine de sa peau qui contient de la mélanine. À moins d'être africain ou de vivre en Afrique, vous ne pouvez pas comprendre ce système de pensée négatif autour de l'Africain qui serait inférieur. Être africain, c'est savoir que nous sommes forts, mais cela va au-delà de l'Afrique. Nous évoluons dans un monde global, nous rencontrons des gens de différents pays et nous devons être capables de comprendre leurs connaissances comme eux doivent pouvoir comprendre les nôtres comme des partenaires. Nos élèves sont afrocentristes. Ils parlent leur langue maternelle, mais ils sont aussi capables de faire ce que d'autres font ailleurs dans le monde.
Oui, justement, vous parlez de la langue maternelle. Les langues traditionnelles des tribus kenyanes sont enseignées ici. Il y en a plusieurs qui sont enseignées. Ça fait partie, c'est vraiment central dans l'enseignement que vous voulez apporter à ces élèves.
Yes, teaching of mother tongue is central.
Oui, l'enseignement des langues traditionnelles est central et c'est un pilier de notre école. Notre langue maternelle importe notre culture, nos croyances. Or aujourd'hui, elle est surtout utilisée comme simple outil de communication. Elle n'est pas associée au pouvoir. On préfère apprendre à parler l'anglais plutôt que notre propre langue, car l'anglais est considéré comme la langue du pouvoir qui ouvre des portes et procure dignité et respect. C'est ainsi que nous refoulons cette idée que les langues africaines sont tout aussi importantes, si ce n'est plus, que les autres langues. Vous devez être convaincu que votre langue est la plus importante avant de vous tourner vers la langue des autres.
Combien de langues vous enseignez ici? Parce qu'il y en a, une quarantaine au Kenya. Et comment est-ce que vous trouvez concrètement les professeurs pour enseigner ces langues traditionnelles?
Okay, so we teach especially in Nakuru, we teach the main Nakuru traditional languages.
Alors, nous enseignons les principales langues traditionnelles que l'on retrouve ici à Nakuru, c'est-à-dire le Luo, le Kisi, le Luya, le Kikuyu, le Borana. Et désormais, nous enseignons aussi le Kamba, le Meru et le Turkana. Nous utilisons simplement les ressources que nous avons. Pour chacune de ces langues, il y a un professeur qui est issu de cette communauté.
On entend ici derrière nous les machines de chantier parce que l'école se développe en fait. Hein. Vous allez continuer à grandir. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre école, continuer évidemment à se développer, mais aussi pour le pays tout entier?
Absolutely. So...
Absolument, cette école est toujours en mouvement. En ce moment, nous construisons une piscine et des étagères supplémentaires dans les classes car les enfants ont beaucoup de livres. Nous sommes encore en train de nous agrandir pour devenir meilleurs. Chaque Africain devrait toujours être dans cette volonté de devenir toujours plus grand, toujours meilleur.
RFI à Nairobi, 89.9 FM.
Reportage au Kenya de Charlotte Simonard à Nakuru, au centre du Kenya. Christelle Mignot, ce reportage de Charlotte Simonard dans cette école au Kenya, où les langues africaines sont surtout un enjeu culturel, c'est un petit peu l'inverse de ce qui prévaut sur le reste du continent. Là, on a des élèves qui ne parlent pas de langue africaine et qui viennent les découvrir dans cette école, alors que en général, c'est plutôt des enfants qui ne comprennent, qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais et qui parlent une langue africaine à la maison.
Oui, absolument. On a presque une situation inversée avec des élèves anglophones qui apprennent les langues traditionnelles, donc un projet culturel de défense des langues en danger. En Afrique francophone, en effet, la plupart des enfants ne maîtrisent pas du tout la langue française. Pourtant, à l'heure actuelle, et malgré 50 ans d'expérimentation bilingue, la grande majorité des écoles d'Afrique subsaharienne francophone continuent de fonctionner en français, ce qui provoque des abandons scolaires et des échecs scolaires.
Alors, un message de Jean en Haïti, vous voyez, pas qu'en Afrique. Ici, nous pensons, nous réfléchissons en créole, mais nous écrivons en français. 95% de la population haïtienne n'écrit pas, ne comprend pas le français. Pourtant, dans nos écoles, tous les livres sont en français. Nous sommes en pleine diglossie, c'est-à-dire situation linguistique, nous dit Jean, d'un groupe humain qui pratique deux langues en leur accordant des statuts hiérarchiques différents. J'aimerais savoir, questionne Jean, s'il y a d'autres pays qui enseignent dans une langue qui n'est pas la langue nationale. Gabriel Mba, vous êtes universitaire au Cameroun. Est-ce que vous pouvez répondre à Jean?
Oui. En réalité, la photo qu'elle nous montre est une photo commune à presque beaucoup de pays où on peut vivre des situations diglossiques où aussi on peut avoir de la diversité multilingue. Dans des pays. En réalité, on est confronté à cela dans nos différents pays et dans nos différentes écoles, où on arrive à voir que des enfants qui arrivent parlent leur langue maternelle et sont maintenant à l'école, mais la langue de l'éducation, c'est la langue française ou anglaise, comme c'est le cas au Cameroun. Mais on arrive aussi dans des situations urbaines où les enfants parlent uniquement, pour la plupart quand même, rien que les langues officielles, c'est-à-dire l'anglais et le français pour le cas du Cameroun. Et maintenant, les efforts sont là pour leur dire il y a quelque chose de plus important qui relève de votre identité propre, et que sont les langues maternelles, qui pour eux sont comme les langues de leurs parents. Et comme j'ai dû suivre par ailleurs, on donne du poids très souvent aux langues officielles, parce que c'est la langue du pain, excusez-moi de dire cela, parce que hégémoniquement, cela a un statut beaucoup plus ouvert qui permet à ces personnes de l'ascension sociale. Et cela formate les esprits au point où des gens ont des considérations que vous voyez assez moins pesantes pour les langues africaines ou les langues camerounaises pour notre cas. Qui sont pourtant leur langue, de leur environnement propre.
De leur communauté.
Oui.
Vous disiez les langues officielles sont la langue du pain. Alors peut-être, il faudrait préciser que langues officielles, dans ces cas-là, c'est évidemment l'anglais ou le français. Mais on peut avoir des pays où il y a plusieurs langues officielles, y compris des langues africaines, Christelle Mignot.
Alors c'est le cas en Haïti. Le créole haïtien est langue co-officielle du français. En revanche, en Afrique francophone subsaharienne, la plupart du temps, la langue française est l'unique langue officielle et elle cohabite avec des langues nationales. Donc on a vraiment trois échelons, la langue officielle, hyper valorisée, les langues nationales et ensuite des langues locales.
Langue locale, même si le terme aujourd'hui prête à polémique, hein, le plus simple c'est quand même de parler de langues africaines qui sont parlées par des millions de locuteurs, la première des langues africaines hormis l'arabe, c'est le swahili. Je voudrais vous lire quelques messages d'auditeurs. Albert, qui est enseignant à Kolwezi en RDC. Mes élèves parlent le swahili, mais mes cours sont en français. Cela perturbe les enfants. Jean-Pierre à Kinshasa. À Bukavu, j'ai passé mon enfance. Toutes les écoles enseignent encore en français. Le swahili est la langue parlée par la population de cette partie du pays. Mais ça n'est finalement qu'un cours parmi d'autres et uniquement pour la forme. Mais dans les villages, on enseigne en langue maternelle dans les classes débutantes pour repasser ensuite à un enseignement exclusivement en français. Je voudrais que vous nous disiez l'un et l'autre, Christelle Mignot et Gabriel Mba, d'abord, que démontrent les études, les expérimentations d'un point de vue purement pédagogique et pas politique. Un enfant, Christelle Mignot, vous dites « j'apprends si je comprends ». Ça peut sembler du bon sens, ça n'est pas une évidence non plus.
Alors, dans le cas du tournage du film, on a filmé des séances de cours dans des classes monolingues, exclusivement en français, et des classes bilingues. Sans aucun doute, les cours fonctionnent beaucoup mieux en école bilingue. Puisque les élèves ont le droit de parler dans la langue de leur famille, ils comprennent ce que dit l'enseignant, ils peuvent participer, ils peuvent partager leur expérience, poser des questions, ils sont vraiment dynamiques. Vous le verrez dans le film. On a filmé, par exemple, au Burkina Faso et au Mali, des classes avec plus de 120 élèves. Les élèves, littéralement, se battent pour avoir la parole. Inversement, dans les classes monolingues, comme les enfants ne comprennent pas ce que dit l'enseignant, on a deux cas de figure. Soit des élèves qui sont complètement silencieux et qui passent la journée entière à écouter un message qu'ils ne comprennent pas, soit des élèves qui répètent ce que dit l'enseignant sans comprendre ce qu'il répète.
Du par cœur.
Par cœur.
Gabriel Mba.
Oui, en réalité, ce qu'elle dit est tout à fait juste. On doit comprendre que l'échec scolaire est d'abord un échec linguistique. Et quand l'enfant apprend dans une langue qu'il ne contrôle pas, il faut s'attendre à ce que les résultats scolaires se ressentent. L'expérience que nous avons eue au Cameroun est bien cela, puisque nous sommes dans un type de bilinguisme que nous appelons, deux types de bilinguisme au Cameroun que j'appelle bilinguisme officiel quand c'est le cas du français et l'anglais, mais un autre bilinguisme qui est le type identitaire, où on a l'une des langues officielles et une langue maternelle, une langue camerounaise dans le système éducatif. Cet autre système marche très bien parce que l'enfant se sent impliqué dans son processus d'acquisition des savoirs. Il écoute, il a deux vecteurs qui lui permettent d'acquérir les connaissances et il est possible pour lui, maintenant d'utiliser sa langue maternelle comme stratégie didactique. C'est-à-dire qu'il utilise cela pour comprendre parfois ce qui est dit dans l'autre langue. Et maintenant, la réflexion qu'il fait est mûrement faite dans sa langue identitaire avant même qu'il ne puisse plus tard passer cela dans l'autre langue.
Par exemple, pour apprendre à compter.
Mais évidemment, pour apprendre à compter, il le fait et beaucoup plus dans sa langue maternelle. Et c'est plus facile parce qu'en ce moment-là, lorsqu'on dit « un », il sait que chez lui, on ne dit pas tout simplement « un », il faut associer à des objets. Donc, le moment où le maître dans la salle de classe enseigne compter de manière pratique, il l'associe à des objets déjà dans sa langue maternelle et peut maintenant reprendre plus tard et savoir qu'il y a l'abstraction. C'est plus facile de cette manière-là. Et ça réduit d'ailleurs le temps consacré au temps de comptage.
Mais aujourd'hui, il y a quand même consensus dans les organisations internationales sur le fait que les premières années d'enseignement doivent se faire dans la langue maternelle de l'enfant, dans la langue qui est parlée, en tout cas dans le milieu, à la maison. Alors, pourquoi il y a autant de décalage entre, d'une part, les textes réglementaires, le consensus international sur, bien sûr, qu'il faut qu'on apprend parce qu'on comprend, et la réalité dans les écoles primaires, dans les écoles fondamentales, où des enseignants nous disent « mes élèves ne comprennent pas ce que je dis ».
Alors, ce qu'on a pu identifier, nous, lors du tournage, c'est un manque de formation des enseignants, un manque d'outillage des enseignants, on manque encore de ressources bilingues, et une tendance dans tous les pays à la succession d'expérimentations. C'est pas nouveau, hein, cette question de l'enseignement bilingue. Les pays francophones africains se sont tous lancés dans l'aventure dans les années 60-70. Mais on a depuis les années 60-70 une succession d'expérimentations bilingues, un manque d'évaluation, un manque de capitalisation, un manque de mise à l'échelle.
Des expérimentations bilingues qui finalement ne durent que quelques années, voire deux années, trois années grand maximum, et ensuite on passe au tout français ou au tout anglais ?
Exactement. Soit elles se succèdent, donc on va avoir un programme qui expérimente par exemple trois ans une méthodologie bilingue et qui ensuite laisse la place à un autre programme, soit comme vous le dites, les programmes bilingues sont abandonnés et on retourne à un fonctionnement monolingue. Je me permets juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que le mot-clé au niveau pédagogique, c'est le transfert. Il faut que les enseignants soient formés pour aider les élèves à vraiment bien maîtriser leur langue et pouvoir ensuite transférer leurs compétences dans la langue officielle, la langue française. Et pour cela, un enseignement en langue africaine pendant 1, 2 ou 3 ans ne suffit pas. Les études prouvent qu'il faut à minima 7 ans d'enseignement dans la langue africaine pour que l'enfant ait les capacités de transférer ensuite ses apprentissages en langue française. Alors bien sûr, la langue française doit arriver tôt, elle peut arriver d'ailleurs à l'oral dès la première année, mais on ne doit pas abandonner les langues africaines trop tôt. Ce ne sont pas juste des béquilles pour la langue française, ce sont des médiums à part entière d'enseignement.
7 ans en langue africaine pour une réussite scolaire, une langue africaine, quelle qu'elle soit, qui cohabite avec une langue comme le français, une langue officielle. Que disent les parents, Gabriel Mba, quand l'école passe par exemple au tout français? Est-ce que ça favorise la rupture entre l'école et les familles et donc le décrochage scolaire des enfants les plus pauvres, notamment les filles, où les familles se demandent finalement, mais à quoi sert l'école qui enseigne une langue que nous-mêmes, nous ne comprenons pas?
Oui, en réalité, comme elle a dit tantôt, je voudrais lui donner tout mon concours dans cela. Les successions d'expérimentation bilingue, c'est pas bien. Et les problèmes qui se posent, évidemment, le transfert de compétences en est là. Quand on regarde tous ces modules, ces modèles qui ne durent pas et qui sont vraiment pour nous des modèles soustractifs, c'est-à-dire qui ne permettent pas qu'on arrive à la maturité de tout cela et à la maturité de ce transfert, il faut ajouter aussi un autre élément. Est-ce que les gouvernants financent, évidemment, ce genre d'éducation? On ne le fait pas très souvent. Et c'est pourquoi il y a des successions d'expérimentations, parce que toute politique qui n'est pas une politique suivie arrive aussi à décourager les uns et les autres, que ce soit sur le plan de la formation, que ce soit même la société pour laquelle on est en train de pouvoir faire des efforts. Et les décrochages que l'on dit tout souvent, dans l'esprit même des familles, ou dans l'esprit des apprenants, ou dans l'esprit même de la politique linguistique ou de la politique éducative, cela est possible si ce n'est pas déjà pensé auparavant. Où est-ce que l'on va? Quel est le type d'homme que l'on veut produire et quel est le type de société? Parce que si on n'a pas réfléchi au départ sur le type de société que l'on veut produire et sur le type de développement que l'on veut enclencher, on aura tous ces problèmes, soit de décrochage, soit de succession d'expérimentation bilingue, soit de problèmes de formation liés au transfert de compétences.
Vous restez bien sûr en ligne avec nous, Gabriel Mba, à mes côtés Christelle Mignot. Vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Dites-nous, les voisins, les voisines, quelle est la place des langues africaines dans les écoles de votre pays? Dans quelle langue vos enfants se sentent à l'aise pour apprendre? On vous donne bien sûr la parole dans quelques instants. Gabriel Mba, vous nous le disiez, l'échec scolaire à l'heure actuelle sur le continent africain est d'abord et surtout un échec linguistique. On y revient juste après des artistes sud-africains, Touba Tsimfo Moloa et Zoé Modiga. Milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI, nous parlons éducation comme chaque semaine et aujourd'hui on s'interroge sur la place des langues africaines dans les systèmes éducatifs, dans les écoles de vos enfants. Bien sûr, vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission au 33 7 64 45 51 41. On en discute avec nos invités experts, Gabriel Mba, chef du département des langues et cultures à l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé 1. Vous êtes spécialiste de l'éducation multilingue, vous nous le disiez, vous nous parliez de cette nécessité de faire cohabiter des langues africaines. Alors en plus, vous êtes dans un pays, le Cameroun, qui est riche de plus de 200 langues. Je parle sous votre contrôle, Gabriel Mba, de faire cohabiter ces langues africaines aux langues, à la langue du pain, comme vous le disiez vous-même, c'est-à-dire la langue de l'émancipation sociale, du business, le français ou l'anglais. Christelle Mignot, vous êtes responsable de l'alphabétisation, langue française et intégration à l'ONG Solidarité Laïque. Et vous préparez un documentaire qui s'appelle « J'apprends
si je comprends ».
Si je comprends, j'apprends si je comprends, c'est logique. Et donc, vous insistez sur la nécessité d'enseigner les langues africaines au moins 7 ans pour que l'enfant soit à l'aise ensuite dans les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter. Et bien sûr que ces langues africaines peuvent cohabiter, doivent cohabiter aussi avec la langue officielle du pays, à savoir en général le français ou l'anglais. Ou le portugais d'ailleurs.
Exactement.
Et vous avez travaillé sur différents pays, le Sahel, le...
Mali, Sénégal. Je mène par ailleurs mes recherches de doctorat avec l'université Montpellier dans ces deux pays, République démocratique du Congo et Burkina Faso.
Et quant à vous, vous nous téléphonez. Écoutez le message de ce voisin en Guinée-Conakry.
Bonjour Emmanuel Bastide. Les langues africaines ont une place importante dans la réussite scolaire des élèves en Afrique. Mais malheureusement, nos États ne font pas assez de choses. Moi, par exemple, en Guinée-Conakry, ici, nous avons l'écriture Nko, inventée par le savant scientifique Souleymane Kanté. L'écriture Nko qui regroupe les groupes linguistiques parlés en Guinée, par exemple, les Malinké au Mali, les Bambara en Côte d'Ivoire, les Djula en Gambie, au Guinée-Bissau, les Mandinko. Mais malheureusement, nos États ne font pas assez. Sinon, dans 3 mois, on peut lire, écrire Nko. Mais malheureusement, nos États ne font pas assez. Alors, comment on peut convaincre les dirigeants africains de s'intéresser à nos écritures, à nos langues africaines?
Merci Faudé pour ce message qui a été posté sur notre compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Moussa, vous êtes enseignant en école primaire, dans une école publique de Guinée-Conakry, le même pays que Faudé. Bonjour Moussa.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Mamou, hein, dans le centre de la Guinée. Vous êtes dans une école de cours préparatoire. Vous avez 45 élèves, c'est ça?
Oui, 45 élèves dans ma classe, oui.
Oh, ouais. Et vous aussi, vous vous posez des questions sur la langue d'enseignement. Vous aussi, vous vous interrogez sur la place que pourrait avoir le co dont nous parlait Faudé.
Oui, hein, vous savez, l'enseignement de la langue française en Afrique, ce n'est pas du tout facile, hein, parce que la langue française, elle est étrangère devant les enfants. Donc, comme moi je l'ai dit dans mon commentaire, il faut passer par les langues du terroir pour pouvoir faire comprendre à l'enfant ce que tu veux le dire. Il faut ça. Mais ce n'est pas obligatoire d'écrire la langue du tiroir sur le tableau. Mais quand il y a nuance pour le faire passer l'enfant, il faut passer par... Par exemple, moi, je parle Nko. Donc les enfants comprennent vite ça et puis on passe là-bas. C'est comme ça.
Ça veut dire que vous utilisez une langue qui est comprise par les enfants pour ensuite... amener votre sujet en langue française. Vous avez le droit de le faire ou pas, Moussa? Que signifient les textes réglementaires chez vous?
Bon, ça signifie tout simplement que c'est pas recommandé dans la pédagogie. C'est pas forcément recommandé, mais s'il y a les nuances. Nous sommes obligés de passer par les langues du tiroir pour faire comprendre l'enfant ce que tu veux le dire. Parce que il y a les enfants de trois groupes, les élèves de trois groupes, par exemple. Parce qu'il y a des enfants qui captent vite. Bon, il y a d'autres enfants qui la compréhension n'est pas totale. Donc, il faut passer par les langues nationales pour faire comprendre à l'enfant ce que tu veux dire.
Oui. Quand on est enseignant devant 45 élèves en zone rurale, il y a un principe de réalité finalement. Il faut bien trouver une solution pour que l'enfant apprenne, si je vous ai bien compris.
Oui, il faut bien trouver une solution. Cette solution, si c'est par exemple la CP1, c'est-à-dire la première année, il faut forcément utiliser la langue du terroir. Parce que la langue française est délicate. Donc il faut passer d'abord par la langue maternelle pour faire comprendre à l'enfant ce que tu veux le dire. C'est pas la pédagogie quand même, on n'a pas recommandé d'écrire ça, la langue du terroir, au tableau. On n'écrit pas au tableau, mais verbalement, tu peux passer. S'il y a nuance, tu peux expliquer dans la langue du terroir et facilement l'enfant va comprendre.
Vous n'écrivez pas au tableau parce que c'est déconseillé par les textes réglementaires. Merci beaucoup, Moussa, d'avoir été en ligne avec nous. On accueille Ibrahima Giroud, qui est psychologue à Dakar. Bonjour, Ibrahima Giroud.
Bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités.
On vous entend régulièrement comme chroniqueur dans cette émission. Vous aviez un point de vue sur la question des langues africaines, en l'occurrence là, le Wolof au Sénégal. Qu'est-ce que vous constatez sur les enfants que vous suivez qui sont en difficulté scolaire dans un pays où la langue Wolof est comprise par presque tout le monde et dans un pays qui enseigne surtout en français?
Oui. Ben déjà, Emmanuel, je voudrais renforcer ce que Christelle Mignot et Gabriel ont dit dans votre émission. Et je pense que même nos gouvernements sont conscients que l'absence des langues africaines est un grand, grand problème, puisque dès le début, les enfants sont confrontés a une langue, qui a sa structure, qui a sa façon de dire les choses, qui est très différente de ce à quoi ils sont habitués dès la naissance, et peut-être même depuis la grossesse. Donc, il faut bien qu'on comprenne que les enjeux sont très, très importants. Oui. Donc, depuis la naissance, les premières années, les enfants se sont habitués à une façon de dire les choses, à une façon de faire les mathématiques, à une façon de rêver le monde, à une façon de comprendre le monde. Oui. Et donc, ça, on ne peut pas accepter une rupture aussi brutale, ouais, que ce qui se passe en ce moment-là, dès le préscolaire, par exemple, pour le cas du Sénégal ici, alors que les textes sont clairs qu'il faudrait commencer l'enseignement du préscolaire avec les langues nationales, nous voyons que dans la pratique, ce qui se passe, c'est que c'est le français qui est manifestement plus facile, apparemment, et les enseignants commencent dès le préscolaire avec le français. Donc moi, j'ai fait une petite simulation. Et je me suis dit, heureusement que tous les enfants sénégalais ne vont pas au préscolaire. Il n'y a qu'à peu près 16% des enfants sénégalais qui vont au préscolaire et plus de 80% donc sont dans les familles, d'une certaine façon. Et dans ma simulation, on aurait eu approximativement perdu l'équivalent de 108 000 ans de capital humain chaque année si tous les enfants sénégalais aller au préscolaire dans la façon dont le préscolaire est en train de se faire aujourd'hui.
D'accord, je ne sais pas si je vous suis complètement dans votre calcul, mais en tout cas, je vois où vous voulez en venir, Ibrahima Giroud. Vous parlez quand même essentiellement de Dakar. Christelle Mignot, vous, qu'est-ce que vous avez constaté lors de votre documentaire au Sénégal? Est-ce que réellement, il n'y a pas de départ en langue africaine, en l'occurrence Wolof, là, pour le cas du Sénégal, et le français serait largement introduit dès les premières années de scolarisation?
Dans la grande majorité des écoles, oui. L'enseignement continue à être dispensé uniquement en français, y compris dès la maternelle. Mais il existe cependant...
Ce qui n'est pas conforme au texte, hein, puisqu'il est, il est admis politiquement au Sénégal que doit cohabiter un bilinguisme les premières années.
Oui, d'ailleurs pas uniquement au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique subsaharienne qui ont le français pour unique langue officielle. Tous les gouvernements ont présenté l'enseignement bilingue, biplurilingue, langues africaines, langues françaises comme un objectif prioritaire. Malheureusement, il y a souvent une différence entre le projet politique et la concrétisation sur le terrain.
Mais néanmoins, d'autres personnes disent qu'il y a des zones au Sénégal où l'enseignant maîtrise mal le français parce qu'il a été mal formé, parce que lui-même n'est pas allé à la fin du cycle secondaire, par exemple. Et donc forcément, il enseigne en Wolof.
Absolument. Bah, d'ailleurs, vous le verrez dans le film, on a rencontré des enseignants qui étaient eux-mêmes en insécurité linguistique en français. Certains, d'ailleurs, ont refusé qu'on les filme parce qu'ils se sentaient mal à l'aise et ne voulaient pas que le grand public soit témoin de ce manque d'expertise en français.
Donc, il y a bien plusieurs situations qui cohabitent, plusieurs dysfonctionnements aussi qui cohabitent,
oui.
Ibrahima Giroud.
Oui, tout à fait, Emmanuel. Il y a plusieurs dysfonctionnements. Parce qu'en fait, dans la formation des enseignants, il y a déjà un grand problème. Il n'y a pas assez de temps pour former les enseignants. Donc, même si on décidait de les former dans les langues, on risque de ne faire que déplacer d'une certaine façon le problème. Mais au moins, ouais, certains aspects qui sont liés à la gestion de la discipline, la question de la violence, il y a beaucoup plus de chances de gérer ça, par exemple, parce que ça a un coût important, ces aspects liés à la protection des enfants, ça a un coût important sur les performances du système éducatif. Et l'utilisation de la langue peut jouer énormément pour pouvoir absorber un peu, vous voyez, certains aspects qui sont liés à la gestion de la discipline, puisqu'on peut se comprendre beaucoup plus facilement. Il y a peut-être beaucoup, potentiellement moins de violence, puisqu'on va parler un langage que l'enfant comprend. Donc c'est très important qu'on voit ces aspects, pas seulement les aspects académiques, mais la gestion de la discipline, la gestion des émotions, les codes culturels, tout ça fait partie des performances du système éducatif.
Mais alors, s'il y a consensus sur ce bilinguisme, comment expliquer, Gabriel Mba, que dans la réalité, les gouvernants n'appliquent pas, ne parviennent pas à appliquer, à mettre en œuvre une école bilingue? Jusqu'à quel point la dimension politique est importante aussi dans ces stratégies d'éducation en langues africaines? Je pense aux jeux de pouvoir ethniques, aux ambiguïtés aussi avec les relations, avec les organisations internationales, avec les gros blocs linguistiques français-anglais. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à avancer sur ces questions, Gabriel Mba?
Oui, il y a à comprendre
que les gouvernements doivent d'abord, pour elles-mêmes, avoir une planification ou une politique linguistique propre, claire, véritablement définie et soutenue par ces États-là. Et parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire « je vais enseigner la langue », on n'enseigne pas la langue pour la langue. Enseigner une langue africaine ne veut pas dire... C'est pas pour dire... Enseignons la langue africaine. Cela veut dire qu'on enseigne la langue pour le développement intégral de l'apprenant. Ce n'est pas tout simplement le processus de lecture, écriture ou compter qui doit être derrière l'acte d'enseigner. On doit comprendre que les apprentissages subséquents, que ce soit dans les disciplines scientifiques ou tout autre, que le développement intégral de celui qui apprend rentre là à l'intérieur.
Par exemple?
Par exemple, j'ai souvent l'habitude de prendre un exemple des nombres que nous avons dans les langues maternelles. Si je prends par exemple 22, vous allez vous rendre compte que dans les langues africaines, on va dire 2 plus, on ouvre une parenthèse, plus 10 fois 2. Et on referme la parenthèse. C'est le même mécanisme-là qui est dans les mathématiques où vous allez dire x peut-être plus y fois 2. Mm. Donc x plus 2y égale à 22.
Mm. C'est le cas du Wolof, Ibrahima Girou, je crois.
Parfaitement. C'est le cas du Wolof. Mm-hmm. Sauf que nous, c'est 2 fois 10 plus 2.
Oui, donc en fait, c'est plus logique d'un point de vue mathématique.
Oui, tout à fait. Je disais donc que si on avait compris donc ce phénomène, que cette manière de faire les choses dans les langues nationales ou les langues africaines ne gêne en rien le processus d'acquisition, les États devraient s'y investir parce que ce n'est pas enseigner la langue pour la langue, c'est enseigner la langue pour le développement intégral de l'apprenant. Parce que beaucoup sont parfois, ils doutent un peu, il faut le dire. Ils se disent, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au fond des acquisitions de savoir scientifique, technologique? Ma réponse est oui. Parce qu'il faut cultiver les langues là jusqu'à ce point et la formation des maîtres, des enseignants, doit être assez organisée pour que cela soit bénéfique à l'opérateur.
Mais alors justement, Christelle Mignot, à combien faut-il estimer le coût financier supplémentaire pour une éducation bilingue de qualité?
Alors, les États devraient en effet investir pour mettre à jour la formation initiale, la formation continue des enseignants, comme je le disais tout à l'heure aussi, pour produire davantage de ressources. Mais il y a une étude extrêmement intéressante pilotée par Kathleen Hugh qui explique que les bénéfices de l'enseignement bilingue sont tels que les efforts financiers faits par les États seraient très rapidement rentabilisés du fait des meilleurs résultats scolaires et d'une diminution des abandons des enfants.
Ouais. Alors, ceci dit, il y a certains pays où c'est déjà compliqué de muter des enseignants dans des zones rurales parce qu'ils veulent rester majoritairement dans la capitale ou dans les grosses villes du pays. Si en plus il faut prendre en compte la maîtrise de cet enseignant de la langue dans la région où on veut le muter parce qu'il y a un enseignement bilingue, ça complexifie encore, non, le pilotage d'un système éducatif?
Oui et non, il faudrait connaître les compétences linguistiques des enseignants et les muter en fonction, c'est pas si compliqué.
Gabriel Mba, en conclusion, pour vous, quelles mesures d'urgence faudrait-il prendre pour une vraie éducation bilingue qui permette de faire réussir les élèves? Si vous deviez convaincre en quelques secondes les décideurs politiques, pas seulement du Cameroun, mais du continent.
Oui. Comme dans tout système éducatif, si on veut promouvoir une telle politique, vous voyez, il y a les ressources humaines, c'est-à-dire les enseignants eux-mêmes. Donc, procéder à leur formation, c'est assez essentiel. Mais il faudrait aussi que les politiques accompagnent ce genre de projet des moyens financiers que cela exige. La centralisation à outrance parfois de certaines manières de faire, ce n'est pas rentable. Mais alors le processus de décentralisation de la chose linguistique permet maintenant d'avoir un résultat beaucoup plus frappant, beaucoup plus positif. Lorsqu'on prend cette mesure-là qui permet à ce que les gens soient plus proches de la langue qu'ils enseignent et que les gens qui doivent enseigner la maîtrise effectivement et qu'ils puissent être capables de faire ce transfert qui pourrait exister entre une langue et l'autre, c'est-à-dire entre une langue maternelle ou le français ou l'anglais, selon les circonstances, ou toute une autre langue.
Vous ne recommandez pas, vous, personnellement, Gabriel Mba, d'abandonner littéralement une langue officielle. Je vous pose cette question d'abandonner par exemple le français ou l'anglais, parce que on a une question de Jean-Yves et on a d'autres auditeurs qui nous posent cette question. Jean-Yves est à Bobo-Dioulasso au Burkina. Si au Burkina on laissait tomber le français, est-ce qu'on pourrait se développer si personne ne parle notre langue?
Oui, il y a deux choses à considérer. On pourrait avoir une éducation complètement dans les langues africaines. Il faudrait donc avoir une politique qui va supporter tout cela. C'est-à-dire, la science que les autres ont dans les autres langues, tout le savoir qui se trouve divulgué par ailleurs, il faudrait ramener cela dans les langues qui sont les langues africaines et avoir du matériel nécessaire pour faire la transmission.
À commencer par Internet, hein, qui est vraiment, qui a très très peu de langues. Internet, c'est l'anglais, c'est le français.
Deuxièmement, on peut avoir un système plurilingue ou biplurilingue où on associe les langues africaines avec les autres langues pour des problèmes de mobilité. Parce que ceux qui apprennent en Afrique ne sont pas obligés de passer toute leur vie en Afrique. Or, il faut leur donner des outils qui peuvent leur permettre la mobilité scientifique, la mobilité éducative. C'est un aspect que l'on ne doit pas oublier. Je sais que quelqu'un va dire... on peut procéder par les traductions, ils peuvent aller ailleurs et puis on procède par les traductions, c'est très bien. Mais ça, c'est les deux modèles que l'on peut choisir. Mais il faut savoir qu'il y a des conséquences pour chacun des modèles qu'on devrait adopter.
Christelle Mignot.
Alors moi, j'inviterais à regarder le film où on voit clairement combien les enfants dans les classes monolingues sont mal à l'aise et inversement, combien les enfants de classes bilingues sont épanouis. J'en profite pour remercier l'OIF et le ministère des Affaires étrangères qui nous soutiennent sur le projet.
Ceci dit, c'est vrai que la question des bailleurs de fonds pour promouvoir le bilinguisme dans les écoles, on peut se poser des questions parce que les systèmes éducatifs sur le continent africain manquent de moyens. Alors est-ce que réellement les bailleurs de fonds sont motivés sur cette question ?
Oui, absolument. Ils sont motivés. Le problème, à mon sens, c'est que chacun a parfois tendance à travailler un petit peu de son côté. Et là, j'en profite pour parler d'une initiative qui me semble très intéressante au Sénégal, portée par le ministère de l'Éducation nationale. Cette initiative s'appelle le MOEPS, Modèle harmonisé de l'enseignement bilingue. Le ministère donc, de l'Éducation nationale sénégalais a pour projet de réunir tous les acteurs institutionnels du bilinguisme et de faire le point sur les forces, les faiblesses des expérimentations qui ont eu lieu dans les écoles. Donc valoriser, diffuser les bonnes pratiques et corriger les faiblesses. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire dans tous les pays.
Et encore du chemin à parcourir pour que ce soit une réalité dans les classes, Ibrahima Girou.
Oui, il y a un long chemin à commencer par refondre la façon de penser le système. C'est que jusque-là, les familles sénégalaises, les parents sénégalais et africains n'ont pas été associés dès le début au projet éducatif. C'est là que ça doit commencer. Il faut qu'on associe les parents, qu'on les valorise, qu'on les respecte. C'est la même façon. De la même façon, on respectera également et valorisera les langues.
Eh bien, merci pour ce mot de conclusion, Ibrahima Girou. On vous retrouve régulièrement comme chroniqueur chez 7 milliards de voisins. Merci à nos invités, Gabriel Mba, chef du département des langues et cultures à l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1, spécialiste de l'éducation multilinguiste, de l'éducation multilingue. Pardon, merci d'avoir été en liaison avec nous. Et merci à vous, Christelle Mignot, responsable alphabétisation, langue française et intégration à l'ONG Solidarité Laïque. Votre documentaire sera disponible début octobre. J'apprends si je comprends. Demain, reportage au Québec, quand la formation professionnelle permet à de jeunes Africains déjà qualifiés dans leur pays d'émigrer au Canada. Enquête sur une immigration choisie. Ne manquez pas l'émission. Demain, même heure, même endroit.